témoignage. Alors maintenant, on va avoir un temps où on va pouvoir discuter, lui poser des questions, mais aussi continuer à discuter sur les différents points qu'il a pu aborder, mais aussi sur sportif de haut niveau et témoignage, sportif de haut niveau et foi, voilà un peu ces différents aspects. Il y a peut-être sûrement déjà des questions à poser à Guido.
À quel type de prière tu as mis ta pratique du sport? Tu as prié pour demander, pour remercier, pour quoi?
Ma vraie entrée.
Hein.
Comment?
Ça a pu varier dans ta vie.
Ouais, en fait, la vraie prière que j'ai faite, la vraie prière que j'ai faite, la première fois que j'ai prié, c'est juste au moment de cette blessure où j'allais peut-être plus jouer au foot, en fait. C'est là où vraiment j'ai pris conscience que j'avais une limite, en fait, puisque jusqu'à présent, on me faisait croire, et puis moi-même, j'ai cru que j'en avais pas, puisque tout me souriait. Et le fait d'avoir été sur ce lit d'hôpital, et surtout. Peut-être si j'avais eu un accident, bon, je m'en serais remis, mais là on touchait vraiment la profondeur de ce que je suis, parce que vraiment dans mon talent, dans mes talents, ce qui m'est donné d'abord en propre, c'est de développer ce rôle de gardien de but. Donc du coup, j'ai misé tout sur ça, et j'arrivais vraiment à ne plus jamais être un joueur de foot. Donc de ce moment-là, c'est vraiment une entrée dans la prière, dans cette prière qui est un peu... je dirais un gratte, qui est un peu celle qui s'est passée comme ça, mais derrière, elle a été beaucoup plus purifiée, et vraiment, je suis entré dans un moment de prière à ce moment-là, quoi. Voilà.
Mais dans l'ordinaire des jours, puisque ça fait quoi, combien d'années?
Ça, on dirait pas, ça fait 20 ans.
20 ans, déjà.
Ouais.
Et dans l'ordinaire des jours, est-ce qu'il y a eu des prières plus banales, sans doute, hein? J'ai compris que, de toute façon, la plupart des conversions... quelquefois, ce qui est intéressant, c'est que tu cherches ce qu'il a préparé d'ailleurs. Parce que souvent, on s'aperçoit que dans les conversions, il y a eu.
Tout à fait.
Même une histoire de cordel. Hein. Il y a eu un long temps, puis tout d'un coup, il y a le jour où ça se trouve. Mais je veux dire, oui, dans l'ordinaire des jours, ça t'arrivait de prier à partir d'un match de foot, et si tu le faisais, c'était quoi? C'était demander la victoire?
Oh non, non, non.
C'était remercier, c'était quoi?
J'allais souvent les matins me ressourcer à l'église. Il y a deux temps, c'est pour ça que je dis, c'est aussi important il y a deux temps. La première, c'est l'entrée dans la prière, et la deuxième, c'est, je dirais, le recentrage sur mon baptême, en fait. C'est ça que je témoigne, dans ce sens que ça se termine dans un sanctuaire marial auquel la Vierge Marie, bon. Jamais prié, quoi. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans le dogme de l'Église catholique et à travers ce que j'ai vécu, quoi. Et la prière était les matins du match, très simplement pour demander, de plus être blessé, demander la protection, que tout se passe bien. C'était une prière générale, c'était pas une prière pour la victoire. Après, si le bon Dieu, je disais, si tu veux que le poteau soit sortant pour nous et puis rentrant pour nous, il faut l'inverse, quoi. Je ne vais pas t'en vouloir, quoi.
Je reviens sur l'idée.
Et après, c'est fini.
Non, mais c'est bon, on a le temps.
Quand le match était...
Oh, on a tout le temps, je suis là pour la soirée, pas de soucis.
Quand le match était joué, est-ce que ça faisait l'être une prière?
Comment?
Quand le match était joué, pas forcément à la seconde, mais un match après, ça ouvrait une prière ou pas?
Très simplement, à la fin du match, je remerciais le bon Dieu, voilà, quel que soit, que tout soit bien passé, en fait, à travers les événements, et puis voilà, une prière très simple, hein, rien de... voilà.
Comment tu vivais après, entre guillemets, la conversion, ton retour au haut niveau avec tes partenaires?
En fait...
Au niveau de la foi ou du comportement
En fait, ça a pas changé grand-chose. Ils ont pas vu grand-chose. Simplement, j'ai toujours été le même gardien de but. Simplement, intérieurement, tout a changé dans ce sens-là. C'est-à-dire que je me suis vraiment mis dans les. On s'est vraiment. C'était aussi à travers cet approfondissement de foi. On l'a vécu aussi en famille avec mon épouse aussi. Hein. C'était vraiment un cheminement avec nos enfants aussi. Et c'était de discuter avec les chrétiens, les catholiques, et puis aussi avec les autres, mais avec une recherche beaucoup plus profonde sur le sens de Dieu, le sens de ma foi, la vie de l'Église, si on peut dire comme ça. Et donc, voilà, la recherche d'aller plus à la messe, la recherche, voilà, tous ces événements. Et aussi, après, il y a tout ce qui est la doctrine sociale de l'Église dans un deuxième temps. Maintenant que je suis plus vieux, je commence à comprendre, à étudier tout ça aussi. Et à travers l'éducation des enfants, enfin voilà, toutes ces
Et
choses-là.
après le changement aussi, je sais pas, de ton regard sur toi-même quand tu es revenu, toi, c'est-à-dire avec, bon, avant que tout allait bien, bon, voilà, tu étais entre guillemets une vedette, voilà. Et comment tu te voyais après, par la suite,
Alors
dans ton
après,
retour?
dans ce retour-là, je voyais pas, oui, très bien. Deux choses ont changé, c'est la finalité avec laquelle je voyais les événements dans lesquels je vivais. C'est-à-dire, je m'explique, la finalité d'un bon footballeur, pas d'un bon footballeur, mais je ne vais pas être trop dur, c'est d'avoir la plus grande gloire du monde avec le plus gros porte-monnaie du monde. C'est ça la
Ça.
finalité, hein? Mais il y a deux finalités qui font rêver les jeunes, c'est de leur dire que vous allez passer à la télévision, donc ça c'est la plus grande gloire, passer à la télé au jour d'aujourd'hui, et avoir plein d'argent, donc ça c'est la deuxième plus grande gloire. Donc à partir du moment où tous ces événements sont produits, ça c'est pas devenu le numéro 1 au top 50, c'était ça, c'est devenu quelque chose qui était là, puisque ça fait partie du jeu, mais l'idée c'était de qu'est-ce que je vais laisser en tant que sportif au niveau de la valeur de mes entraînements, de la valeur avec mes coéquipiers, et aussi en tant que miroir vis-à-vis du public par rapport à la vie de tous les jours que je vais avoir. La transmission par rapport à ça, en tant que catholique, quoi. Voilà.
Je reviens sur l'idée de dépassement. Le dépassement, c'est la notion fondamentale du sport, ça, hein, se dépasser. J'ai beaucoup réfléchi dessus, mais c'est pas évident de, bon, te donner certaines réponses. Mais quand on dit dépasser ses limites, on ne peut pas dépasser ses limites, on les fait reculer. Alors pour moi, le dépassement, c'est l'effort volontaire, tu as bien ça, hein, voilà, au lieu de rien faire, de se laisser aller. Il y a une part de volonté, il y a une part d'affronter la douleur, parce que quand on veut faire beaucoup. Les muscles et tout, il y a la douleur. Donc, le dépassement, c'est affronter la douleur, faire acte de volonté, c'est faire reculer ses limites. Mais quand on fait ça, moi, pour moi, la vraie notion de dépassement, c'est on atteint un au-delà de soi-même. Et donc, on entre dans la réalité spirituelle de soi-même. Pour moi, le dépassement, c'est surtout ça, c'est parce que les limites. Par exemple, je prends Christophe Lemaître, maintenant c'est 9,92 au 100 mètres. Ben, même s'il a été médaillé olympique, il ne fait pas mieux que 9. Donc il a déplacé ses limites. Seulement, quand il a fait ça, puis maintenant, il y a quelque chose qui se passe en lui qui lui donne l'impression, même la certitude, d'atteindre un peu le sommet de lui-même. Et c'est ça la réalité spirituelle. Pour moi, le dépassement, c'est l'ouverture sur plus grand que soi, ou se transcender sur une transcendance. Alors qu'on reconnaît ou pas, parce qu'on reconnaît ou non, parce que je me suis transcendé, mais le croyant va dire, ben, j'ai rejoint la transcendance, c'est quelqu'un, je me sens plus près de Dieu, voilà. Moi, je sais pas comment vous définissez le dépassement, mais on ne peut pas dépasser ses limites. Hein? On les fait reculer. Mais quand on essaye de les faire reculer, c'est vrai sur le plan du sport, mais c'est vrai sur le plan moral, c'est vrai sur le. Ben, il y a une élévation qui fait qu'on atteint, et pour moi, c'est ça le chemin spirituel du sport, c'est celui-là. On déplace ses limites, on les fait reculer, mais on s'élève vers plus grand que soi, et là, du coup, ben, voilà. Bon, la musique peut permettre une élévation, il y a d'autres moyens qui permettent une élévation, l'art, voilà, mais le sport, pour moi, la réalité du sport spirituel, c'est celle-là, le sport s'est développé de partout. Et, voilà. Et du coup, le mot qui permet d'entrer dans cette réalité spirituelle, pour moi, c'est la sensation. La sensation. Ah, quand j'ai des sensations, quand vraiment je me sens bien, je me sens élevé, je sens qu'il y a plus que moi-même. Pour moi, je l'ai vécu comme ça, c'est comme ça que je définis le dépassement. Sport et dépassement, c'est vraiment les deux mots qui vont ensemble. Mais après, bon, il faut analyser ce que ça veut dire dépassement. Et voilà. Voilà.
Et le dépassement, ce serait la question de finalement vivre une rencontre. Moi, je suis frappé par ton témoignage de Guillaume, merci beaucoup parce que c'est à la fois très intime et ça touche beaucoup d'expériences. Il y a une partie très, très personnelle qui est belle, mais je suis amusé par ce GPS ce petit clin d'œil, là, j'ai raté ma confession, enfin j'ai oublié, et puis je vais le faire. Comment tu t'es dit, enfin, pour moi, le dépassement, c'est. J'aime bien aussi dépasser la limite, pousser la limite, mais la limite a bougé, donc il y a un dépassement, la limite a été dépassée. Il y a une autre
oui,
limite.
Dépasser au sens de bouger, d'accord,
ouais.
Mais pas à ouais.
Oui, effectivement, parce qu'aller hors de soi, c'est ne plus être soi-même, quelque part,
voilà,
c'est une aliénation.
Ouais.
Mais donc, on est en une frange, on a une limite, là, il y a un seuil, et puis en bon terme, c'est une rencontre. Alors, ta rencontre avec le Seigneur, c'est quoi?
Ma rencontre avec le Seigneur, c'est la première blessure quand je vais plus à la suite de cette opération, je vais plus jouer au football. Je comprends pas le sens de ma vie à ce moment-là.
Donc c'est le creux, enfin c'est
C'est-à-dire que à ce moment-là, je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis à la fin d'un système de ma vie en fait.
la question.
C'est la question. Pourquoi ça m'arrive?
Injustice?
Non, non,
Pas du tout.
pas du tout. Pas injuste.
Du
Non, parce
tout.
que je rejoins ce que vous disiez. Juste en amont, quand on réfléchit, il y a toujours quelque chose, une
Voilà.
perspective avant.
Oui.
Hein? Avant cette blessure-là, on peut l'éviter. Voilà. Enfin, on peut l'éviter. On peut pas tout éviter, mais on peut expliquer plein de choses. Elle arrive, c'est pas une injustice. Parce que dans ma réflexion, je sais qu'à un moment donné, ça, j'aurais pu l'éviter. Voilà. Donc, mais par contre, je me retrouve devant la fin de mon système. C'est-à-dire que bon, ben voilà, je parlais, j'avais pas de prière, j'étais voilà. Et à ce moment-là, je dis ben voilà, je vais perdre tout ce que je sais faire. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ben pourquoi? Faut que quelqu'un m'aide. Et à ce moment-là, il y a que Dieu qui peut m'aider. Je suis tout seul avec lui.
Ah oui.
Ben oui.
Oui, c'est parce que. Enfin, c'est vrai.
Je suis tout seul avec lui, le
Oui, t'as
chirurgien, le
raison.
lendemain. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, c'est évident. Je suis tout seul avec lui, il faut que tu
Oui,
m'aides, fais quelque chose. Et à travers la réussite de l'opération, derrière, bah, ça ne s'est pas fait comme ça, mais il a fallu cravacher, mais voilà.
et ton regard de foi éclairé, justement, chez nous, en montagne, une conversion aussi, hein, on est de ça par cœur aussi, pour l'instant, ça se retournait. Est-ce que ça a fait le projeter sur ta vie, sur l'ensemble de ta vie, un regard différent? Est-ce que tu revues la vie?
Complètement. En fait, j'étais pas si loin, mais j'en étais loin. J'étais pas si loin, mais j'en étais loin. Et derrière, il y a une question de. Ça arrive, et derrière, il y a autre chose à. Si on est là, c'est qu'on a des choses à transmettre, à faire avancer, à faire évoluer, quoi. Voilà.
Parce qu'il y a un truc qui m'a frappé, c'est bon, les passions, effectivement, on n'entend parler plus. Enfin, et moi, je ne suis pas dessinateur, mais si j'étais dessinateur, je dessinerais un gars qui essaie de se détacher de son ombre. C'est impossible. Or, beaucoup, souvent, le détachement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut se dépasser, mais on reste toujours collé à soi-même. Et ce qui m'a frappé dans ta description, alors, je me rappelle, je n'en ai pas à défendre les vêtements, mais aussitôt après avoir parlé du dépassement, tu as parlé des autres. Et ton dépassement, il était en lien avec l'ouverture aux autres.
Tout à fait.
Et je crois que c'est aussi un signe, je parle de dépassement authentique, c'est-à-dire que ça ne t'a pas refermé sur toi-même, alors que souvent le dépassement, on reste avec ses propres performances, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Moi, ça m'a frappé, je me disais, il avait annoncé un deuxième
Ah,
point,
y a,
et
y a
j'ai
plusieurs, y a
remarqué.
plusieurs dépassements de soi, comme le dit René. Il
Oui,
y a, y a, y a d'abord
ça
le.
n'y
Voilà.
croit, tout ça.
Personnellement, de par mon poste, je suis obligé de me dépasser moi-même dans ce sens que j'ai mes partenaires et mes adversaires, mais aussi j'ai une lecture du jeu. Si je ne suis pas juste sur un ballon, je vais être en avance ou alors je serai en retard. Donc j'ai obligé d'avoir la justesse. Donc je suis obligé de tenir compte de tous ces paramètres. Donc je suis obligé de sortir de moi-même, je suis obligé de me dépasser dans la réflexion et je dirais presque dans mes appuis, je suis happé par toutes les situations des adversaires, des partenaires et de ce que ça génère autour de moi. Ouais.
Deux questions. C'est autour de votre carrière et autour de la notion de limite. Je vous laisse répondre à la première. Comment et pourquoi êtes-vous passé de Lens à Monaco et Borussia Dortmund?
Mais c'est très simple. À Lens, j'ai arrêté en 2002. Après, je suis parti en Angleterre à Arsenal. Et après, le gardien de Dortmund, enfin, l'entraîneur d'Arsenal voulait le gardien de Dortmund. Et moi, j'ai fait le chemin inverse. Voilà. Et après, à Dortmund, je connaissais bien l'entraîneur Didier Deschamps, qui est le sélectionneur de l'équipe de France, qui m'a fait venir à Monaco. Voilà. Tout
Didier
simplement.
Deschamps, ouais.
Voilà.
Alors, on l'appelait autrefois l'homme noir, parce qu'on le voyait bizarrement. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, d'ailleurs, chacun de nous là, souvent un peu en aversion, en regardant les éoueurs monumentales qui arrivent lors des matchs, comment et ses attitudes, ses actions peuvent basculer un match de football. Vous qui avez été gardien de but et qui avez une plus large vue sur l'espace de jeu que tout le monde, quel regard projetez-vous sur l'arbitre comme étant le juge du match, ou plus en plus autorité, tout ce que vous voulez? Et ensuite, quelles sont vos idées par rapport à un passage éventuel à la vidéo?
Ah, ah là.
Ça va tomber sur
nous. Bah, l'arbitre, il faut dans tout sport, il faut une règle. Je le dis, hein, là, il fait partie du jeu, donc c'est un homme avant tout. Je veux dire, il peut avoir des sensibilités, il peut aimer plus le bleu que le noir, il peut, enfin voilà, ou le rouge, voilà. Mais il doit essayer d'être impartial et d'être uniquement dicté par le jeu. S'il y a faute, il y a faute. S'il y a carton, il y a carton. Voilà. Aujourd'hui, il y a un vrai danger parce que on va bientôt sortir. D'ailleurs, il y a un danger dans toute la société, c'est qu'on va bientôt sortir, on va enlever les hommes bientôt. Voilà, c'est ça le danger. C'est qu'avant tout, c'est une histoire d'hommes. Et l'arbitre en fait partie. On a vu, avant-hier, il y a des injustices. Il est que humain. Voilà. Il disait l'arbitre de touche aussi, il s'est trompé. Évidemment, à la télé, voilà, il y a les enjeux, machin. Donc du coup, il y a un vrai danger de dire. Un jour, on va mettre que des caméras et des choses comme ça, quoi. Donc, ça, c'est pour moi un peu dangereux. Alors qu'on s'en serve pour voir si vraiment, en cas de litige et quelque chose, faut rester dans un domaine, est-ce qu'il y a eu, le but est valable ou pas? Voilà. Ça peut être bien. Pour le reste, faut laisser l'arbitre décider, quoi. Voilà. À mon avis.
Juste pour revenir sur ce que Raphaël disait tout à l'heure, la question. On parle beaucoup de la prière, du rapport à la prière. Vous avez dit que vous êtes revenu à Jésus.
Mmh.
Quel est le rapport à la parole de Dieu, à la Bible, qui fait autorité pour nous en tant que croyants? Comment vous avez cheminé avec et qu'est-ce qui vous a interpellé?
La parole vraiment qui m'anime, c'est Matthieu 25, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, ce que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Puisque de par mon statut professionnel, j'ai amené à rencontrer beaucoup de monde, donc beaucoup de personnes, donc il y a peut-être des choses qui paraissent anodines, donc il ne faut pas se tromper. À travers la transmission qu'on veut laisser en tant qu'image pour pouvoir transmettre la réalité de Dieu. Voilà. C'est pourquoi est-ce que moi... Enfin, pourquoi? La question fondamentale, c'est comment est-ce que dans mon être, dans ce que je suis, je peux transmettre quelque chose pour tout un chacun, à travers ce qui va se représenter. Si c'est à travers le foot et qu'ils m'ont trouvé bon, ma foi, tant mieux. Donc du coup, mais si à travers la vie aussi, à travers voilà les plus faibles, les plus faibles, les plus petits, voilà. C'est ça cette parole-là qui a toujours été un peu mon fond de commerce, je peux dire.
Une précision technique, donc tu n'es plus joueur.
Ouais.
Et tu t'es orienté vers quoi?
Alors là, j'arrive de Paris, là j'étais dans les médias, je bosse un peu à la télé, je commande des matchs. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur, j'ai aussi une petite équipe de niveau régional à Beaune, voilà, et puis je fais un peu d'aumônerie aussi, voilà.
L'aumônerie, ça consiste en quoi?
Je suis aumônier dans une maison de retraite.
Moi, je reviens à l'idée de la parole de Dieu, pardon. Ouais. Comment?
On t'attendrait aumônier dans un collège, voilà.
Ah non, c'est le
banc
de touche.
Ah, c'est ça. c'est le bon Dieu, il fait des trucs. C'est fou, hein.
Mais je pense que Dieu a beaucoup d'humour avec
ça. Ah ouais. Je sais pas où il veut m'emmener, mais en tout cas, il m'emmène.
Moi, je dirais dans les paroles, glorifiez Dieu dans votre corps, votre corps est le temple de l'esprit. Moi, je pense que quand même, en tout cas, moi, c'est mon expérience, je pense, de celle de beaucoup, le fait de se dépasser, de tout ce travail sur le corps, fait que le Dieu qu'on rencontre, c'est un Dieu incarné, c'est un Dieu qui a beaucoup plus de tonus, d'intensité que... Moi, je pense que on rencontre Dieu à travers tout ce qu'on est. Un paysan le rencontre à travers la nature, la montagne, voilà. Certains à travers la musique. Le fait de le rencontrer à travers le sport lui donne... C'est toujours le même Dieu, mais il y a un autre contenu qui est pas pareil. Et c'est un autre chemin, quoi. Donc, moi, les paroles de la Bible, c'est glorifier Dieu dans votre corps, ou c'est la résurrection, c'est l'incarnation, c'est quand même... Notre Dieu est un Dieu qui est un Capricorne. C'est quand même pas simplement la transcendance. Hein. Donc... Je trouve que c'est ça. Et du coup, quand on ressent vraiment ça, moi, c'est ce que j'appelle l'état de grâce. On n'en a pas parlé, mais toi, est-ce que tu as connu des états de grâce? Des moments où vraiment Dieu devient presque évident, mais dans notre corps, dans notre chair, et pas simplement comme ça, dans. Voilà. L'état de grâce, quand vraiment.
Il y a deux états de grâce.
Ça manque les protestants, très bien. Hein. Le sport, c'est quand même l'effort, la volonté, mais la grâce, c'est la grâce quand même qui fait que nos efforts portent du fruit ou pas. Hein. Donc, l'état de grâce.
Exactement. Moi, tout à fait. Moi, c'est lié, hein, je pense. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Je veux dire, c'est d'amener d'abord sa nature propre à pousser à sa limite, à son maximum.
Oui.
Et puis derrière, bien, la grâce, elle vient ou elle ne vient pas.
Elle vient ou ne vient pas. C'est justement là qu'on voit que ça ne dépend pas que de nous.
Exactement. Voilà. À ce moment-là, on pousse à sa propre limite. Et c'est là où vraiment, dans ce qu'on est, eh bien, on est limité, mais en même temps, on voit qu'on n'est pas limité, puisqu'on peut aussi repousser la limite et avoir une transcendance. Donc d'abord aussi, à travers ce qu'on est, ce qu'on représente, et il y a aussi la même chose pour, si on lit un peu, voilà, c'est dans la prière aussi, l'oraison, il peut y avoir aussi un moment où on est transcendé aussi, à un moment donné, on a du pain chaud à manger, puis il y a des fois on a du pain sec dans la prière, donc bon, il y a aussi les deux, donc c'est un peu le même rapport, quoi.
Dans ce champ de la grâce, il y a la notion et la dimension à atteindre ou du dépassement, enfin voilà, on voit bien comment on tourne autour quand même. Saint Augustin, la première grâce que Dieu nous a faite, c'est notre nature, donc il y a une véritable correspondance à trouver entre la nature qui est la mienne et puis la grâce première originelle, qui est un don donné, bien qui tu es, découvre-toi toi-même. Il y a un moment, il y a une rencontre à vivre, qui nous révèle notre vraie véritable qualité. Et c'est tout ça le chemin de la grâce, évidemment. C'est que notre nature s'accomplit dans sa juste résonance.
Tout à fait.
Et comment tu vois justement tous ces gestes, plus ou moins religieux, qui sont faits quand on marque un but? Est-ce que tu y vois comme de la magie ou comme justement l'expérience d'un grâce? C'est-à-dire, si j'ai marqué, ça ne vient pas que de moi, il y a quand même quelque chose d'autre, tout, parce qu'on en voit de plus en plus. Ouais, hein, les signes avant d'entrer, sur le terrain, ou alors le doigt. Comment tu vois ça, toi? On va souvent poser la question, moi j'en sais rien, mais voilà, comment tu vois ça?
Moi je pense qu'il y a un peu, c'est un peu fourre-tout.
C'est un peu fourre-tout.
Ouais, là. C'est un peu fourre-tout. Alors ce qu'il faut pas, là où c'est pas fourre-tout, c'est qu'il y a, vraiment une idée de rendre grâce, on parle de la grâce, de dire merci à Dieu. Il y a vraiment une idée de la transcendance. Hein. Tout homme cherche quelque part Dieu. Donc, d'abord, on rend grâce, voilà. Et après, derrière, c'est un peu fourre-tout, puisque il y a de la superstition dans tout ça. Donc, on fait des signes de croix, on met des pommades magiques, ou je sais pas trop quoi. Bon. Voilà, on va voir les types, des machins. Donc, tout ça, ça existe. Il faut rester très prudent avec tout ce qui est l'ésotérisme et toutes ces choses-là. Ça existe aussi dans le foot. Tout ça pour avoir la victoire, parce qu'il y a machin, truc, bidule. Donc, faut un peu balayer ça d'un revers de main. Faut simplement, se préparer, comme on prépare son match. Moi, je dirais, prépare bien son match dans sa semaine, d'un point de vue professionnel, dans son état d'esprit aussi, dans sa prière, avoir quelque chose de clair et limpide. Et puis, être beaucoup plus, je dirais, tranquille. Après, chacun est les Latins et les Sud-Américains sont plus expansifs que les Français, peut-être, sûrement, même. Et donc voilà, bon, il faut rester aussi rester prudent. Mais il y a en majorité entre la vie de, voilà, et puis vivre une vie vraiment, je dirais, ancrée, incarnée dans notre foi. Et puis tous ces trucs magiques qu'on voit, il y a quand même un petit décalage quand même. Enfin, pour faire simple, il n'y en a pas beaucoup qui vivent vraiment. Il y en a, attention, mais ce n'est pas une majorité qui vivent vraiment de leur foi. Voilà, je dirais qui suivent les sacrements. Quoi.
Juste pour revenir sur cette deuxième blessure,
ouais.
À 36 ans,
ouais.
J'ai pas lu la page Wikipédia sur ce qui se passe un petit peu après, mais est-ce que du coup, quand on revient comme ça, on a davantage un lâcher prise face au fait qu'on veut contrôler aussi notre carrière et qu'on prend peut-être plus de plaisir à rejouer finalement? Comment on gère toute cette pression?
Ouais, alors, c'est peut-être pas la deuxième blessure, c'est plutôt la première. C'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que j'étais beaucoup plus libéré.
Voilà.
J'étais beaucoup plus libéré. Parce que je parlais pas à un esprit, je parlais à un homme qui s'est incarné. Voilà. Donc, c'est libérateur, en fait. J'ai un ami avec moi, en permanence. Donc, du coup, dans ma préparation, il y avait un côté stress, côté qui se libère. Puisque le matin, d'aller à l'église, d'aller prier, ça me, voilà. Ma préparation était bonne, physiquement et aussi spirituellement. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est libérateur. C'est extrêmement libérateur dans la relation qu'on a avec Dieu. Et donc, du coup, cette libération peut nous emmener peut-être à être encore meilleurs.
Quel lien t'as gardé avec le monde du foot professionnel, première question? Et moi, il y a la grande, je suis dans le vélo, la grande question du dopage en lien avec l'argent. Enfin, de se dire, est-ce qu'on pourra arrêter le dopage sans arrêter le sport professionnel?
La première question, c'était quoi?
Quel lien tu as avec
Ben, j'ai gardé, moi je veux pas lâcher, au contraire. En tant que catholique, je préfère être dedans, voir tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a de moche, tout ce qui est, voilà, parce que au mieux qu'on y soit, qu'on n'y soit pas. Donc, du coup, il faut y être et essayer de, soit pas faire de la morale, mais au moins mettre des points éthiques, dire non, c'est pas bien, voilà. Donc, même si on est un peu regardé de traviole, mais tant pis. Et puis, la deuxième chose par rapport à ça, moi, je dis un jour, il faudra faire les Jeux Olympiques de tous ceux qui veulent se doper. Par exemple, dire, voilà. On va courir le 100 mètres en 4 secondes, alors ceux qui se dopent plus, voilà, et puis il n'y a plus rien à gagner, enfin, faire les vraies choses, enfin, je caricature, mais en gros c'est ça, c'est que par rapport au cyclisme, c'est la même chose, et le rugby est en train de connaître ça aussi, dès que l'argent se met dedans, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la finalité de tout ça, c'est il faut gagner le maximum d'argent, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, voilà, et les deux vont ensemble, hein. L'argent, voilà. Alors, il y en a certains, ils ont pas, mais il faut se doper, parce que ma carrière et tout, du coup, ça finit toujours en drame. Et puis, la gloire, voilà, ça va de pair. Donc, je pense qu'il y a, il faut qu'on soit là, il faut qu'on y soit, il faut y être. Et à un moment donné, un ou deux types peuvent améliorer des systèmes qui sont à la dérive, quoi. Puisque, au jour d'aujourd'hui, les systèmes dérivent. Donc, autant y être, autant, dans ce d'entre on est là pour justement en parler, puis de s'en y être, quoi. C'est les autres qui sont à notre place. Donc, du coup, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme contrepoids? Rien. Puisque tout est justifié. Oui, c'est vrai. Puisqu'il va gagner ça, il va gagner sa vie, tout. Donc, vous voyez qu'après, il est mort dans un ravin, c'est trop tard. On va justifier parce qu'il doit gagner sa vie. Non. À un moment donné, il faut qu'on soit éthique et puis qu'on dise stop. À ce moment-là, voilà. Pas facile, mais.
À quoi sert-il de gagner le monde si tu viens à
perdre ton âme, voilà, ça.
Les footballeurs ont un immense rapport avec l'autorité incarnée par l'armée.
Ils ont quoi? Une immense autorité incarnée?
Un immense rapport avec l'autorité.
Un immense rapport.
L'autorité est incarnée par l'arbitre sur le terrain de vie. Moi, je veux partir de deux faits. À la Coupe du Monde de 1994, dans le match qui a opposé l'Argentine face à la Grèce, quand Diego Maradona a marqué son but.
La main de Dieu.
Non, c'est pas ça. Alors. Il est allé faire un petit peu de grimace aux autorités qui étaient là et de la FIFA.
Et tout de suite, il y a eu contrôle de dopage positif et puis c'était arrêt. Arrêt définitif d'ailleurs. Avant, la semaine dernière, il y a eu le match. Un match entre le Barcelone et la Real Sociedad. En sortant, Neymar a applaudi l'arbitre. Suspension de 4 matchs. Qu'est-ce que vous pensez de ces choses? Est-ce qu'il n'y a pas un orgueil mal placé du côté des autorités? Parce que je trouve que.
Il y a les deux. Il y a les deux. Je pense qu'il y a des arbitres qui sont arrogants et qui énervent les joueurs. Il y en a. Mais je pense que la majorité des joueurs de foot, comme il faut gagner à tout prix, bah c'est normal, on est à ce moment-là. C'est que l'arbitre, comme je disais tout à l'heure, c'est un homme, il peut se tromper. On a oublié de dire que c'est un homme, puisqu'il y a un moment donné, on voit que les injustices. Mais quand la justice est pour soi, là c'est normal. Hein, c'est ce que je veux dire. Quand on marque de la main et qu'on gagne 1-0, alors là c'est pas injuste. Mais par contre, si ça nous arrive, c'est injuste. Vous êtes d'accord?
Un joueur expulsé.
Donc,
sorti du terrain et qui fait des petits gestes d'applaudissement, c'est très banal. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit dans le foot? Il ne faut pas.
Non, mais après, faut voir ce qu'il a fait. Si, c'est parce qu'il y a geste d'applaudissement, puis il y a geste de dire bah, bravo, vous nous avez bien eu. Quoi. Si c'est de la
roque. C'est humain, c'est humain.
Voilà. Mais si l'arbitre, après, c'est le contexte, si l'arbitre il s'est trompé et en essayant de bien faire son boulot. À ce moment-là, il n'y a pas à faire ça. Par contre, il y a des arbitres qui sont. Alors, on peut pas juger. Hein, il faut connaître vraiment la situation telle qu'elle est. Il y a des arbitres qui vraiment, à la fin d'un match, on a envie de les frapper, quoi, parce que le type, il est vraiment arrogant, il est vraiment orgueilleux, quoi. Le type, on peut rien leur dire. Et en plus, il siffle des trucs contre vous. Ça existe. C'est une injustice. À ce moment-là, on peut comprendre que des joueurs. Veulent aussi, vous voyez ce que je veux dire. Même si, bien sûr, on n'a pas à faire ça. Donc, il y a une autorité à avoir, il y a une maîtrise de soi à avoir. Et là, c'est ce que je disais à la fin du petit truc, c'est que, bien souvent, on mélange, c'est que du sport. C'est que du football. Hein, c'est que du football. Le football, c'est juste une émotion et une passion, hein, c'est tout.
Surtout qu'il y a, d'abord, une certaine contradiction. Là, parce que, on dit, il ne faut jamais frapper un homme à terre. Si quelqu'un, un joueur par terre, l'arbitre ne lui accorde pas un carton. Il attend qu'il se relève pour lui signifier sa faute. Et quelqu'un qui a été expulsé, pour moi, c'est un homme à terre. Carrément. Il est à terre, il est dehors, il n'est plus dans le coup. Et puis en sortant, il a applaudi. Il s'en va, et puis après, il a été écopé de 4 matchs de suspension. Et si bien que là, on va peut-être Neymar pour le
Barça. Ah, mais là, c'est le supporter du Barça qui parle. Ah, moi, je suis neutre. Il y a les pros Real et les pros Barça. Ouais, là, il faut vraiment faire. Il faut mettre deux salles. Allez, il faut mettre deux salles.
Vous voyez, c'est un match aussi important comme ça qu'on annonce dans les pubs depuis un mois, deux mois, et puis un jeu aussi important pour un petit truc comme ça.
C'est parce que le match est sur Bein Sport, c'est pour ça la question.
Ah, c'est savoir si je pouvais intervenir. Moi, je n'ai aucun pouvoir, hein. Je suis qu'un commentateur à la télé, je ne peux rien faire.
Ouais. Pour rebondir sur. J'ai noté que vous avez dit après la première blessure, 8 mois pour revenir.
Ouais.
Multiples questions par rapport à ça. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne se sent pas dans un sport individuel alors qu'on fait un sport collectif? Encore plus quand on est gardien, mais 8 mois, c'est. Comment on vit ces 8 mois? C'est-à-dire plus de déplacements, on reste avec son épouse, comment on gère ça? Vous avez parlé d'ésotérisme, est-ce qu'on vous a proposé. Des choses pour guérir plus vite. Et troisièmement, est-ce que votre processus de guérison, du fait d'avoir fait une rencontre avec Jésus, vous pensez qu'il a été aussi peut-être plus rapide. Est-ce que 8 mois par rapport à la grave blessure que vous aviez, ça n'aurait pas plutôt été 14 ou 18?
Non, il n'y a rien de mystique dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'était une guérison tout à fait classique dans les ordonnances médicales normales. Très intéressant, puisque je me suis retrouvé d'un seul coup coupé de tout ce qui fait, comme on l'a dit tout à l'heure, la gloire. Et donc, du coup, je me suis retrouvé tout seul. L'importance d'avoir une vie, et on en parlait... On a parlé pour justement comprendre le sens de sa vie, c'est-à-dire qu'on a vraiment un sens. L'homme a rencontré une épouse et il a un sens profond à avoir avec une vie de famille. Il a vraiment à se réaliser dans ce sens-là. Et ça aussi, c'est très important ce que vous dites, puisque tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance, voilà, avec mon épouse, de toujours, elle était disponible, elle s'est vraiment bien occupée de ma famille, de mes enfants. Ça m'a permis de me libérer, ça m'a permis de pouvoir supporter les chocs. Et ça m'a permis aussi de continuer à avancer dans ma vie. Ça, c'est fondamental. Et puis la troisième chose, c'est l'ésotérisme. Alors oui, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a tous les prometteurs de bonjour, de bonsoir, tous les magnétiseurs, les manipulateurs et toutes ces choses-là, pour balayer ça d'un revers de main. Et puis voilà, catholique, on prend un peu d'eau bénite et puis voilà, ça suffit largement. Voilà.
Oui, en deux temps, une manière plus personnelle de, vis-à-vis de M. Warmus, Jus, comme il disait, parce que là, ça touche, merci à l'Esprit Saint et à l'Église Espoir de me permettre de vous rencontrer, parce que Bollaert, c'est quelque chose pour moi.
Ah,
bah oui, là on touche aux émotions. Ah bon. On touche aux émotions, et émotions très fortes. Le ch'ti belge que je suis, 50% de belge côté paternel et 50% de ch'ti côté maternel. Mmh. Là-haut, il y avait deux possibilités, le cyclisme et le football. Le cyclisme, mon père m'emmenait voir les arrivées de Paris-Roubaix, disait c'est pas pour toi, c'est un milieu de dopé. Ouais. Il me dit ça quand j'ai 10 ans, 67. Donc, il n'y a rien de nouveau.
Sous le soleil,
Soleil. Et il me disait oui, moi j'ai vu Van Steenbergen battre Coppi au vélodrome, mais quand il vomissait sur la pelouse du vélodrome, ça sentait l'éther. Et là, on en est, je viens de faire un post sur mon blog, on est en 1952, donc il ne faut pas s'affoler sur le dopage. Une des messes a été dite. Et l'autre, donc j'ai pas pu faire de cyclisme. Et l'autre passion, c'était le football. Bien évidemment, là-haut, il n'y a rien d'autre. Le reste, pour amuser les enfants, il m'a dit non, tu ne seras jamais footballeur, tu n'as qu'un pied gauche.
Bon, ça suffit en même temps. Hein. Ça peut suffire. Hein.
C'était clair et je rage d'en voir réussir avec un seul pied
gauche. Oui, c'est même recommandé.
À cette époque-là, donc j'ai fait rugby parce qu'il n'y connaissait rien et j'étais un rugbyman d'une médiocrité sans doute qui n'a pu sévir que dans des divisions 2 et 3 nationales, quand même. Alors, mais il ne m'empêchait pas d'aller voir les courses cyclistes et surtout, il m'emmenait à Bollaert régulièrement. Et j'étais donc dans la tribune Tranin, nouvellement construite pour le huitième de finale contre la Lazio de Rome. Et le fameux 6-0, j'y étais. Donc de voir, j'ai vu jouer Escale, Lanois, Gaëtan Huard, tous vos prédécesseurs extraordinaires. Je vous ai vu jouer, mais vous, je vous en veux parce qu'il a fallu attendre.
Ah bon.
98, que j'arrive en région parisienne.
Pour être champion.
On est proche de ce type de champion de France.
Il fallait le dire, on l'aurait fait avant. Si vous...
Sincèrement, je vous en veux. Il a fallu que je ramène mon épouse pour aller faire la fête.
Ah, c'est bien ça.
Du côté, j'ai vu jouer Faber, les Polonais, Grégorzy.
Les grandes épopées. Ouais.
Les grandes épopées. Mmh. Donc ça, c'est le côté émotionnel. Merci d'être là. Mmh. Et ça soulève des
souvenirs.
Des souvenirs très forts.
Oui.
Depuis, j'y retourne de temps en temps. Mais
le Nord va vraiment pour parler de ça. Puis bon, on n'est pas là pour ça, mais vite
mais
fait. Ouais, on est là pour ça. Du coup. Vous avez vu, ouais, on a du temps. Le film Bienvenue chez les Ch'tis,
oui.
Bah, c'est caricatural, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire que d'abord, quand on arrive là-bas, moi, j'arrivais de la Bourgogne. J'arrivais, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce pays, quoi? C'est comme, on pleure en arrivant. J'ai demandé, je suis arrivé à Avion, donc juste à côté de Lens.
Oui,
ma femme, je descends, je dis, bonjour monsieur, je cherche la rue Pierre Brossolette. Je me rappelle encore. Le monsieur assez âgé, il me dit « Alors, des bras à droite, des bras à gauche, donc par là. » J'ai absolument rien compris ce qu'il m'a dit. Rien compris. J'ai regardé ma femme, j'ai dit « Mais c'est comme... Mais vraiment, hein, C'est comme, j'ai dit, on est dans un pays étranger, c'est pas possible. Et alors, 10 ans après, on a pleuré quand on est parti, parce qu'on a fait des amis, on était champions, voilà. Tout le monde, ouais. Voilà. Mais pour dire vraiment, on a vécu 10 années formidables. Les ch'tis, c'était vraiment chouette.
Vous avez fait vraiment pleurer.
Ouais, c'était chouette.
Donc ça, c'est une chose, on aura l'occasion d'en reparler. J'espère que vous pourrez rester là jusque samedi. Mais en revanche...
Je pars ce soir.
Oh, mon Dieu.
Je suis désolé. Mais on aura l'occasion de se recroiser, c'est qu'un début.
Mais en revanche, vous savez qu'il y a beaucoup de représentations, fausses ou vraies, on ne sait pas. Quand on est simple spectateur, on a accès au gradin, on voit les mêmes. On ne sait pas qui sont ces acteurs, on ne les connaît pas dans l'intimité. Mais vous aviez l'image de quelqu'un de posé, ça c'est une réalité, de réfléchi. Jugus, et dans à Bollard, vous n'étiez pas du coin, mais il a laissé une trace. Donc,
C'est ça.
C'est pas la même que Didier Six, même s'il m'a fait rêver aussi.
Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Mais
vous êtes un.
Ouais, ben ce que je dis,
c'est. Laissé une trace.
Ça me fait plaisir ce que vous dites, ça me touche. Et en même temps, c'est aussi le but de ce qui m'anime, de ce que j'ai envie de transmettre aux jeunes. C'est-à-dire que le monde professionnel a besoin d'être réformé en profondeur par l'éthique qui va nous emmener à la morale. Voilà. Et si on enlève ça, on l'a perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne de l'illusion. C'est un drame absolu. Les jeunes, on leur donne de l'illusion. À partir de 14-15 ans, on va les déraciner, on va les délocaliser pour gagner 3 francs 6 sous, leur faire croire ça. Ils vont pas faire les études, ils vont pas faire ce qu'il faut. Ou alors, ils vont être des produits marketing. La carrière moyenne, je vais pas vous poser la question parce que j'aime bien la faire, mais la carrière moyenne d'agent professionnel en 2016, elle est de 2 ans et demi, 3 ans au maximum d'un professionnel aujourd'hui. Un type, il signe un contrat, il se blesse, ou on lui donne pas de nouveaux contrats, il est foutu, il a fait que ça. Donc, aujourd'hui, le système broie les individus. C'est des produits marketing, ils ne se rendent pas compte et tout le monde dit « Ah, c'est super !» Mais non, ce n'est pas super, il n'y a que 600 pros, 65 millions de Français. Donc ça, c'est à travers ça, moi, c'est mon idée profonde, c'est ça, c'est de dire « Ouais, que vous soyez professionnel, mais il faut y aller, bien sûr. » Mais en même temps, il n'y a pas que ça, il y a un sens et un but à trouver à tout ça.
En rugby, il y a des syndicats qui demandent un petit peu, enfin, qui vous savez ça en
foot ? Oui, on a l'UNFP qui est très bien fait, mais bon... C'est juste, on est vraiment dans la lutte des rapports de force, je dirais, d'un syndicat classique. L'éthique du syndicat, elle est à revoir, c'est surtout en termes de limites de contrat. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de former des jeunes, c'est à partir de 14 ans, de leur expliquer qu'ils ont ils ont un talent naturel, s'ils doivent aller au foot professionnel, mais pas que, parce que le foot professionnel, c'est une pyramide, on voit toujours le plus petit morceau en haut, mais derrière, on peut très bien vivre de sa vie en ayant vivre sa vie en ayant que ce soit du national, de la CFA, du CFA2, de tout ce qui est en dessous, ça amène des petits contrats. On peut s'entraîner le soir et avoir un beau métier, une belle vie de famille. Donc, pas tout mettre dans l'eau du bain qui s'en va parce qu'on n'est pas professionnel, tout miser là-dedans. Non, au contraire. Et même si on devient professionnel, moi je l'ai vécu, j'ai fait une carrière de 20 ans, mais derrière, il faut se reconvertir, la vie commence. Si vous avez rien à côté, qu'est-ce que vous faites? Enfin, voilà, quoi. Je veux dire. Ou alors, il faut être, bah ouais, les mecs qui gagnent des millions, mais ça, il y en a 3, 4, quoi. Voilà, c'est rien du tout, hein. Mais même ces mecs-là, il faut, moi, je suis pour les rencontrer et leur dire, voilà, pas tous. Il y a des types, il y a des Brésiliens qui, par exemple, gagnent des millions, vont ouvrir des catholiques ou des croyants, des chrétiens, vont ouvrir des hôpitaux, vont faire, bon, d'accord. Mais pas tous. Il y en a qui vont jouer au casino, je sais pas quoi. Ouais.
Et donc, moi, j'ai terminé d'abord sur les émotions, puis je me suis laissé prendre par les émotions, j'ai pas pu amener la question sérieuse. Ah, il me semblait qu'il manquait quelque chose. Mais
oui, voilà, il me semblait qu'il y avait avoir. Il me semblait qu'il allait avoir une question.
Et ça, c'est à cause des émotions. Comment tu avais dit tout à l'heure, Gilles, c'était très bien ce que tu avais dit.
Alors, lesquelles la question?
Alors, la question, c'est que ce soit sur le dopage que vous évoquiez, et Dieu sait. Pour en parler, toutes les activités, demain dans mon intervention, je serai sans doute en permanence sur remettre le sport à sa place. Et je serai sans doute pas le plus bienveillant de ces 3 jours, mais ça, ce sera demain matin. En revanche, je pense qu'il faut arrêter de faire porter au sport des choses qu'il ne peut pas porter. On a l'impression qu'il faudra en permanence le laisser trôner. et lui faire accepter ce que d'autres chemins, points, avis de la société prennent de manière commune. C'est-à-dire moi aussi, j'ai des élèves, quand j'ai mon temps avec mes lycéens, qui, quand je leur fais telle ou telle remarque désobligeante dans cet excellent établissement de l'enseignement privé catholique d'une banlieue chic de Paris, qui m'applaudissent, parce qu'ils ne sont pas contents. Et pourtant, on va faire de grandes écoles et brillantes. Tout à l'heure, on évoquait tel ou tel évêque ou archevêque, on ne semblait pas très content non plus, après tel ou tel personnage, dans telle ou telle entreprise, n'est pas toujours bienveillant et diligent avec supérieur ou inférieur. Est-ce qu'on s'intéresse à la manière dont certains acteurs, certains hommes politiques, en maintenant, prennent telle ou telle substance pour enchaîner meeting et en permanence, déplacement? On ne se pose strictement aucune question. Tiens, ils ont les yeux cernés. Est-ce qu'on s'intéresse à leur santé? Est-ce que Mick Jagger, on s'intéresse au fait qu'il ait sans doute dû avoir deux ou trois transfusions de PO régulièrement pour paraître aussi dynamique? Et on voudrait comme par magie qu'un monde professionnel, ouais, avec des enjeux professionnels, ouais, financiers, des enjeux de carrière, vous l'avez évoqué à un moment donné, comme je gagne ma vie, soit par je ne sais quel miracle déconnecté de toute cette société. Ce serait une espèce d'angelot pur qui circule. Mais non,
non.
C'est pas ça le sport.
Tout à fait.
Pas ça du tout. Alors qu'il y ait au sein de différentes activités, en vous écoutant, j'ai envie de sourire avec vous, vous n'êtes peut-être pas seul, il y en a d'autres. Ça reste des exceptions, mais c'est un milieu comme tous les autres milieux, toutes les sectes sociales. Et on voudrait le purifier, le rendre, je ne sais pas quoi, extérieur à toutes ces contingences. Non ?
Ah, moi, je suis carrément d'accord avec ce que vous dites. Il peut pas, je veux dire, c'est moi, pour parler du foot, par exemple. Bon, on dit, dans le foot, vous avez des problèmes. Ah, je dis, ouais, on a des problèmes, c'est sûr. 1,5 milliard licenciés sur la planète. Donc, du coup, quand vous regardez la société française, dans le stade, il y a le plus pauvre et le plus riche. Regardons la vie de notre société, des guerres, des... Voilà. Comment voulez-vous que, comme par enchantement, on va rentrer au stade, puis d'un seul coup, il n'y a plus de problème.
Impossible. Les gens sont bien éduqués.
C'est sûr.
Ah, voilà. Bravo, Guillaume.
Voilà. Je dis, c'est sûr. Enfin, je vais pas froisser, mais je dis, j'ai pas froissé ceux qui font ce sport-là, mais je dis, c'est sûr qu'au golf ou, par exemple, au tennis, il y a moins ces problèmes. Voilà. Oui. J'ai rarement vu des clubs de golf voler non, mais je veux dire, ça peut arriver. Mais ce que je veux dire par là, moi, mon sentiment profond, moi, je partage complètement cet avis, c'est que le constat d'abord, il doit faire partie du réel de la vie sociétale. On peut pas le déconnecter. En ce qui concerne les individus qui font le monde professionnel et les gens qui sont dans les stades, moi je partage votre avis. C'est là où nous aujourd'hui on doit se réunir et c'est là où il faut qu'on avance pour faire changer justement une ou deux personnes se mettre dans là où on peut être pour faire avancer les choses dans le bon sens du terme. Là, on est d'accord.
Tu avais évoqué un projet que tu essayais de mettre en place cette maison de l'entreprise.
Ah oui.
C'est un projet avec René, ça.
Non, c'est pas un projet.
Si. On en a parlé. Enfin, c'est pas un projet avec toi en tant que tel, mais c'est aussi peut-être t'as la même idée.
Je le bénis, moi. Je suis capable de bénir. se bénir.
Deo gratias. L'idée que j'ai, c'est de faire. Enfin, elle est avancée. Hein, c'est de faire. Des stages qui seraient donc de 5 jours, du lundi au vendredi, avec la première, bien sûr, c'est de progresser, de faire progresser les jeunes à partir de, on va dire, des tranches d'âge 14, 16, 16, 18, 19, 20, et puis jusqu'à 30 ans, on va dire, pendant 5 jours, donc de faire du foot 2 fois, en gros, c'est de vous dire, en tant qu'ancien pro, je vous propose 5 jours de haut niveau, au niveau foot. Donc ça se fait déjà. Mais ça, je dirais, c'est la chose qui nous permet d'entrer dans une vie un peu plus personnelle, avec des conférences, 2 ou 3 conférences par jour, avant les entraînements, après les entraînements, avec la prière, le sens, enfin, de la philosophie, le sens de « a-t-on un but ?» Enfin voilà, des choses comme ça. Donc, réarmer les jeunes, en faire en quelque sorte un lieu où ce serait, cher à René, un prieuré sportif, hein, quelque chose où on viendrait pendant 5 jours se déconnecter, on pose son portable, on fait du foot et puis on parle, on a une réflexion profonde sur le sens de sa vie, comment on peut la donner avec des prêtres, avec le catéchisme, avec la messe, avec des choses comme ça qui, c'est pas tout à fait défini, mais enfin, Voilà l'idée, quoi. Donc j'ai déjà deux lieux maintenant, il n'y a plus qu'à. Enfin, il n'y a plus qu'à.
Il n'y a plus qu'à bâtir.
Il n'y a plus qu'à lancer, quoi. Voilà.
Les lieux, c'est, on peut savoir ou pas?
Alors là, c'est le à Beaune, il y a un château qui est en... Ouais, ouais. Bah, il y a la clé. Vous avez la clé encore?
Oui.
Il va y avoir un truc, mon but. Voilà, puisqu'on est là. On va se dévoiler.
Il faut parler avec Frère Pierre, qui fait ski et prière, qui fait tennis et prière.
J'ai mon fils qui est avec la... Qui va avec la... Enfin, le deuxième, il va avec la... C'est avec les manuels, les gens des manuels, ils font ça super bien, la même chose avec du ski, pareil, pendant 5 jours, pas de portable, le matin c'est enseignement, prière, la messe, et puis l'après-midi, ski. Montagne quoi.
Et prière, ski, ouais, et prière, voilà. Ça
bien. Il faut faire la même chose dans le foot, ouais, faut servir, l'idée c'est de servir de mon nom et puis de faire ça. Ouais, c'est ça mon but, comment?
Le deuxième lieu,
c'est à côté de Mâcon, c'était un ancien prieuré qui touche la voilà. C'est un ancien prieuré qui c'est une maison vigneronne. Mais alors à Beaune là, ce qu'on va regarder, c'est que voilà. C'est ça.
Ah mais c'est Marc aussi.
Eh ben, exactement. C'est exactement l'idée. Voilà, ça on s'en fiche. On le connaît. Ça c'est mon fils. Voilà le projet. Bon. C'est surtout le projet en fait, stage professionnel. Ouais, stage de formation. Il y a 2-3 photos après. On peut revenir ou pas? Non, trop tard. Voilà. Ça c'est Clairefontaine. Bon, l'idée c'est de pas faire Clairefontaine, mais.
Clairefontaine spirituel.
Exactement.
Quoi. Bah oui, ça c'est
exactement.
Super.
Voilà, ça c'est Clairefontaine avant, Clairefontaine pendant.
Voilà.
Voilà.
Ce sera au Vittel ou à quoi?
Comment?
Ce sera un stage au Vittel ou
à quoi? Ah ouais, non. Bon, il y aura peut-être une bouteille de Beaune de temps en temps. Hein.
C'est un bon match.
Ah ouais, obligé. Enfin voilà quoi. Mais on n'a pas la photo. Voilà. Alors l'idée c'est ça, voilà. 14-15 ans, 16-17, 18-19, 21 et plus. Voilà. Donc je veux vraiment cibler pour moi la. Je veux pas faire trop jeune. Donc voilà le jour type. Donc on arrive le 14h, entraînement, douche et la conférence à 18h30, dîner, conférence, extension d'effet, voilà. Et le lendemain, 7h30, réveil, conférence, entraînement, douche, conférence, déjeuner, sieste obligatoire, réveil, entraînement, douche, conférence. Voilà, c'est quand même assez chargé, quoi. Donc dans les conférences, il y a des intervenants, il y a des philosophes, il y a des doctorats de philosophie, j'ai aussi un ou deux dominicains sous le coude, enfin voilà, quoi. Donc
les deux projets, c'est ou l'un ou l'autre, c'est pas les deux, si, c'est les deux.
Ah non, non, bah non, je peux pas être partout. Hein, non.
Oui, deux endroits, mais pas.
Voilà. Charte de bonne.
Deux endroits potentiels.
Voilà, c'est pas défini encore.
Ça serait sur les vacances
scolaires. Non. Les vacances, voilà, ce sera des semaines. Basé, calqué principalement sur les vacances scolaires, mais pas que. Il y aura aussi il y aura du mois de juin, du mois de septembre pour les personnes qui, si d'un seul coup il y a des types de 20 ans qui veulent venir faire un stage de foot, tout simplement. Avec moi, progresser, histoire de s'entraîner, quel que soit le niveau. Alors, il y a les trois niveaux on va tenir compte des trois niveaux, le district, la région et puis le national, pour faire simple. C'est-à-dire qu'un type qui joue un peu moins bien, on va pas le mettre avec un mec qui côtoie. Voilà. Donc, il y a les tranches d'âge et les niveaux, quoi. Voilà.
Il y a une deux questions.
Oui.
Je crois avoir déjà entendu la réponse, mais.
On peut continuer, on est là pour ça.
La première, c'est quelles sont finalement les trois vertus fondamentales qui se sont révélées grâce aux blessures? Et puis la deuxième, bon, je pense que la réponse a été donnée, mais si ça peut être redit, c'est finalement de quel but aujourd'hui vous êtes le gardien?
C'est très beau ça.
Il ne laissera pas passer, c'est ça. Ah.
Je crois que la première des vertus, c'est l'humilité. Ça m'a rendu humble, tout simplement. En fait, j'étais planté, pas planté, mais on m'a fait croire que, et puis j'y ai cru. Donc voilà.
Des limites.
Voilà, humblement que je suis limité. Donc derrière ça, à travers cette finitude, cette humilité, c'est de dire que derrière, ça développe le côté de transmission. Voilà. C'est genre, voilà. veux dire, si on doit, ce que je ne laisserai pas passer, c'est ça. C'est Jésus s'est incarné, et puis avant de... Bon, il a fait des miracles, mais il a fait une doctrine qui est aujourd'hui immuable, notamment « Aimez-vous les uns les autres », il n'y a que lui qui l'ait dit, celle-là. Donc depuis 2000 ans, elle dure. Donc je crois qu'il ne faut pas la laisser passer. Voilà. Donc à travers ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, voilà, faut qu'on soit à son écoute, essayer d'être le plus humble possible, et aussi donner les uns pour les autres, enfin avec ceux qui sont juste à côté de nous dans nos vies, quoi. Voilà.
Moi j'avais deux réflexions sur justement entre le sport de haut niveau et puis une transmission de la foi ou un témoignage de foi. Ce qui m'amène à dire qu'en fait c'est quelquefois les états de la personne qui amène en fait à revenir sur sa propre condition, ses limites, son existence. Donc les blessures dont vous faisiez état, là, effectivement, souvent ça amène aussi à dire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui peut accueillir notre détresse ou accueillir nos états. Et de ce fait, je pense que quand on parlait de repousser ses limites, ou de les faire reculer, il faut aussi se dire que les limites, elles sont différentes selon les états, les moments.
Absolument.
Et c'est ça qui est important par rapport à la notion de fragilité, alors pas forcément que dans la blessure, mais la fragilité de la personne, quoi. Et votre témoignage m'amène à me reposer ces questions sur le fait que ces limites soient différentes et que en fonction de l'état dans lequel on est, on accueille différemment effectivement des décisions arbitrales, des blessures ou des états de joie, hein, enfin, ou de plaisir, ou de plénitude. Et donc je me dis que voilà, ça nous amène à rencontrer Dieu en l'occurrence, mais aussi à rencontrer les autres. Voilà, puisque le sport aussi, c'est, à mon avis, c'est la rencontre de l'autre, l'autre différent, et c'est l'attention à l'autre aussi, l'attention à la personne. Et je pense que voilà, en tout cas moi, ça me parle bien, cette relecture de ce qui vous est arrivé, et à la fois de dire où est-ce que je vais chercher un peu du secours, alors à la fois dans sa famille, mais après auprès de Jésus, auprès de Dieu. Ça m'intéresse en termes de lien entre effectivement le sport et comme on disait, ça peut être la musique, hein, le sport est aussi une passion, l'art,
on peut décliner à tout après,
la musique, les arts visuels et ainsi de suite. C'est comment je m'épanouis au travers de quelque chose, d'une action que j'ai envie de partager avec les autres. Et pour rebondir sur ce que disait M. Schpi, c'est dire que le côté, le fait que le sport est tellement médiatisé par rapport à ce côté éthique, et en fait on ne va jamais trop voir ce qui se passe effectivement dans le monde professionnel, de l'entreprise et ainsi de suite, mais comme il y a la popularité du sport, ça met tout en exergue et on s'offusque de tout, mais il y a des choses peut-être pires qui se passe autour de nous sans qu'on sache et sans qu'on aille mettre les pieds, voilà, que ce soit dans le domaine politique, professionnel, de l'entreprise, et ainsi de suite. Et c'est encore plus exacerbé aujourd'hui parce qu'il y a tout l'aspect d'Internet, d'informations qui circulent à une vitesse pas possible. Donc tout le monde s'en offusque, tout le monde veut donner son avis sur tout. Et voilà, donc on dit que par rapport au sport, c'est vrai que C'est ce décalage qui existe entre le sport tel qu'il est véhiculé, médiatisé, et puis en plus le football, c'est encore plus populaire qu'effectivement que le golf ou que le cricket.
Puis surtout qu'il peut être médiatisé sur des valeurs qu'il ne peut pas porter exclusivement. Et il y a même eu un marketing des valeurs. Le rugby est la première victime. Cette année, c'est l'année d'un temps de crise. On a vendu, et à l'échelle... Les valeurs du rugby, qui n'ont jamais existé, pas plus là qu'ailleurs, mais on les a enrobées, on les a finalement découvertes. Ah bon, les problèmes de dopage en rugby, ah tiens, surprenant.
Mais parce qu'on les mettait en contradiction avec le foot en fait, d'un côté, voilà.
Ils sont décalés dans le temps, quoi. Ils sont à la préhistoire, alors que d'autres sont déjà dans une époque postmoderne.
Tout à fait ça.
Il y en a qui n'aiment pas de l'histoire.
C'est gentil, c'est bien amené. Et avec tout le respect que j'ai pour. Et
on a pas de problème.
Il en a du respect.
On a foutu la préhistoire dehors.
Non, mais c'est. On a médiatisé, on a vendu des valeurs qui n'existent pas, qui peuvent exister chez certaines personnes, qui peuvent être à un moment de leur vie sur un parcours sportif. Mais le sport en tant qu'entité, et on en parlera sans doute dans ces deux jours, comme porteur de valeurs exclusives au service d'une éducation chrétienne, c'est pour moi, on en traitera ça longuement, soit une utopie, une naïveté, ou alors un autre marketing. Ouais.
Puis le sport n'est qu'un moyen parmi d'autres, c'est ce qu'on dit.
Bien évidemment. Ouais, bien sûr. Bien.
Est-ce que les victimes consentantes, ça existe?
C'est une très bonne question. Je pense. Oui, vrai, je sais. Les victimes consentantes, oui.
Oui, oui, c'est sûrement.
Mais victimes consentantes par nécessité professionnelle, les acteurs, victimes consentantes par nécessité professionnelle décalée, l'ensemble de la presse, victimes consentantes aussi la classe politique qui en a besoin jusqu'aux années 80. La corbeille était quand même relativement pauvre en élite du show business et de la politique. Maintenant, il faut réserver bien à l'avance pour être dans la corbeille des plus grands stades. Donc là, maintenant, c'était vendeur. C'était vendeur. Mais on a oublié d'interroger. On ne l'interroge pas. C'est comme les valeurs de l'Olympisme. C'est un. C'est mis. Voilà. Les valeurs de l'Olympisme. Prenez-les, vendez-les, interrogez-les.
Ils sont en train de le faire. Hein, ils préparent la présidence.
Justement, c'était notre conversation entre la table ce matin.
En parlant de valeur, peut-être aussi sur l'aspect de témoignage, parce que tu évoquais que les Sud-Américains ont une plus grande facilité à exprimer leur foi et à témoigner. Oui, oui, oui. Je ne veux pas dire que tu es une exception, mais tu es parmi les exceptions, parce que c'est vrai que on n'a pas énormément de sportifs de haut niveau français qui ont qui osent un petit peu témoigner. On en voit parler de temps en temps, mais je ne sais pas comment tu conçois ça.
Je suis d'accord. Je pense qu'il faut peut-être créer un mouvement, c'est peut-être le moment, de dire voilà, c'est pas s'enfermer, au contraire. C'est de d'ouvrir, d'être universel, c'est de se dire voilà, chaque professionnel derrière, eh bien, il y en a, hein, il y a beaucoup de joueurs qui vivent une vraie foi, on en parle, mais qui restent très pudiques. C'est peut-être parce que en France, il y a l'histoire de France qui est passée par là, on a un pays chrétien, catholique, et l'histoire de France, elle est là. Mais en même temps, il faut aussi être soi-même et puis pouvoir dire à un moment donné afficher quelque chose de plus profond, de plus personnel. Mais il faut trouver, je dirais, un espace commun à ça. Il faut qu'on on est réunis, je suis pas tout seul, mais dans le monde professionnel un peu, donc ici on se met il suffit d'être deux, il suffit d'être trois. Pour non pas encore une fois dire ben voilà, on se protège, au contraire, et pour l'ouvrir et puis pour derrière pouvoir le transmettre et le partager, le véhiculer, dire voilà, on peut très bien réussir, on peut très bien faire, parce que c'est comme ça, parce que c'est, on est allé chercher, puis que à travers ça là c'est notre vie, ben justement on le partage, quoi. Ouais.
Dans le même ordre d'idée, au regard du type de recrutement actuel dans les centres de formation, on a une génération qui est plus proche, avec des nuances sans doute, de l'islam, surtout en Ile-de-France où je suis, et je connais moins les autres régions, et à l'échelle nationale également. Et on a l'impression, mais là je ne connais pas cet envers du décor, que ça peut être plus ostentatoire, plus facile à exprimer, moins réservé que la manière dont vous disiez, qui rejoindrait peut-être
tout à fait.
La question de Pascal.
Après, il faut bien connaître l'islam aussi. L'islam, elle, nous, on a pouvoir, on est, On est dans quelque chose de plus intérieur, on est dans quelque chose de transcendant. Pour l'islam, il n'y a pas de nuance, hein, c'est-à-dire que le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel font qu'un, donc eux, pour eux, ils sont venus pour... enfin, je veux dire, nous, on a quelque chose à proposer dans l'amour, pour pouvoir aller à quelque chose de plus grand, enfin, rencontrer quelqu'un qui est plus grand. Eux, pas du tout, c'est maintenant, et il faut le faire maintenant, c'est une forme d'imposition, c'est conquérant, hein, je dirais. Nous, on conquiert par l'amour, eux, c'est pas par l'amour, c'est par ce qu'ils sont maintenant, la communauté, et donc, du coup, on montre que il faut prendre de voilà. Et je rejoins complètement ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nous, on puisse mettre des contrepoids, non pas pour dire, voilà, mais dire qu'il n'y a pas que de cette manière-là de penser Dieu aussi. Il y a aussi, à un moment donné, c'est là où il faut que ça s'arrête. Quand on voit les débordements, c'est parce que quand on est pour conquérir quelque chose, ben, on est jusqu'au boutiste. Et quand on voit, ben, l'absolu, le terrorisme absolu, c'est justement, on leur a fait croire qu'en faisant ça, pour Dieu, ben, c'était bon. Et voilà, c'est à un moment donné dire stop. Non. On peut avoir la foi, mais il y a la raison. Foi, et à un moment donné, il faut qu'on soit des êtres raisonnables. Donc, ça sert à rien de croire à des choses et puis de les suivre sans raison. Si c'est pas pour le bien commun, par exemple. Si c'est pas pour, si parce qu'à un moment donné, on enfreint la loi. Donc là, il faut que justement, on se forme mieux pour comprendre déjà qui on a affaire au niveau de l'islam, bien le comprendre. Et quand on est dans des terreaux comme celui-là, où ça devient majoritaire, c'est extrêmement difficile de pouvoir inverser la tendance de l'autre côté. Donc il faut vraiment qu'on réagisse à travers ça, par rapport à ça.
Vous confirmez, parce qu'il y a du football
complètement.
Ce côté plus ostentatoire, majoritaire, un peu...
Moi, je le ressens, c'est complètement ça. Moi, j'irais même plus loin, c'est que derrière ça, le monde de l'islam a compris que le football, pour parler du football, hein, qui est arrivé... fin du 19e en France par l'Angleterre, qui s'est développé. Les curés de l'époque ont vite compris que c'était un mode où on allait transmettre vraiment quelque chose de profond à travers la rencontre de Dieu. Et depuis que c'est professionnalisé, le monde des patronages a volé en éclat. Et aujourd'hui, l'islam refait simplement ce que quand le football est arrivé d'Angleterre, que les patronages ont fait. Sauf que eux, ils amènent l'islam avec pour conquérir le système. Donc il y a un vrai... Il y a une vraie réflexion à avoir, c'est-à-dire que par rapport à ça, derrière ça, ils ont une vraie idée de quelque chose de puissant. Donc il faut quand même le savoir. Et derrière, il faut prendre des je dirais des pas des mesures, mais il faut qu'on soit au fait de ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité des banlieues et même dans la réalité de l'islam, quoi. Voilà, tout simplement.
Je me demande s'ils ne rendent pas service parce que ça pose des questions quand même à un certain nombre de chrétiens. Qui font rien pour non pas faire une démonstration, mais pour vivre leur foi. Et moi, je crois quand même qu'il y a une raison plus profonde, je ne connais pas bien l'islam, mais il me semble quand même que la relation entre Dieu qui fait et la créature est plus simple. Hein. Je crois que bon, pour un musulman, je crois que sa force, elle vient directement de Dieu, point final. Nous, les chrétiens, quand on écoute, ils disent, c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a la part de, dans la victoire, Dieu ne donne pas la victoire, pas. Et je pense quand même que ce n'est pas simplement une volonté d'être les plus forts, c'est aussi le fait quand même que c'est plus facile de dire, on trouvera des versets de psaume d'ailleurs, qui sont un peu ça. Hein. Je suis d'une région où il y a très peu de musulmans. Ce que j'en perçois, moi, c'est à travers.
Je partage complètement votre avis.
Mais je crois quand même qu'il y a ça.
Et vous mettez complètement, vous mettez sur, vous allez, enfin, vous prenez l'image d'un ascenseur de, je sais pas, 300 étages, 200 étages aux États-Unis. Vous mettez trois musulmans et puis un petit qui hésite, qui sait pas trop, qui sait, vous montez les 200 étages, en arrivée de la tour, il est converti, hein. C'est rapide, hein, pour lui expliquer la vie de Dieu, crac, on descend de la tour, pouf. C'est extrêmement rapide. Hein. Il faut être. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Alors, c'est pas pour faire peur, parce que chacun est. Mais je veux dire, c'est réel. Et moi, je partage complètement cet avis. Et à partir du moment où, derrière, il y a une vraie structure, une vraie organisation, c'est compliqué de faire appliquer des lois, les lois du sport, les lois du jeu, si derrière, il y a par exemple des gens qui ont un endoctrinement, il y a des choses derrière. Donc, c'est pas évident. Donc, il faut aussi le prendre en considération, ça. Ouais, une réflexion.
Juste peut-être compléter, je ne suis pas
spécialiste, mais je me forme sur l'islam. Ouais. Et on a notre frère Kouli Dieng, qui est sénégalais et qui était musulman avant, et qui a rencontré Christ il y a quelques années, donc il pourra en parler aussi. Il y a une vraie réalité, il y a une vraie pression dans les vestiaires, et il y a même des clubs qui acceptent des jeux de prière pour les musulmans, là où ils ne vont pas les donner aux chrétiens, ou là où les chrétiens ne vont pas les demander. On peut prendre un exemple, Paul Pogba.
Ah,
Paul,
oui, ça, Paul, explique-nous,
qui s'est converti à l'islam il y a seulement 2 ans. Ah. Mais pour beaucoup, comme tu disais, ce que ça doit nous interpeller, c'est nous. Est-ce que nous vivons l'évangile? Est-ce que nous le communiquons?
Qu'est-ce que je dis?
Parce que beaucoup de joueurs, Jacques Fati est né dans une famille catholique. Depuis 10 ans, il est devenu musulman.
Qui ça?
Jacques Fati.
Un joueur, un joueur de foot.
Qui a été formé à l'INF Clairefontaine. Beaucoup ont entendu l'évangile, ou l'occasion. Et quel évangile on leur a communiqué? Quel suivi on fait? Je rejoins entièrement Guillaume ce qu'il dit. On part d'un ascenseur au premier étage, au 200e, même pas au 100e, ils sont déjà. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire la shahada, c'est une confession de foi qui est très simple. Il n'y a pas besoin, il n'y a même pas besoin d'avoir quelqu'un pour être là. Et l'islam est sécurisant.
Ce qui est sur une communauté rapide, il y a une communauté, on est vite dans une communauté, donc on se retrouve tout de suite. C'est là où je rejoins, c'est que, je veux dire, les contrepoids, ça va être compliqué parce qu'il faut être en communauté. C'est-à-dire que pour parler à les mecs qui sont... Alors, une fois que la communauté est majoritaire, c'est très difficile d'y revenir. Là. Sinon, bon, il faut être prêt. Enfin, voilà. Mais je veux dire, il faut quand même le savoir. Il faut qu'on y aille, quoi. Il faut qu'on se forme. Et voilà, parce que eux, ils ne vont pas nous attendre. Hein. Ça, c'est sûr.
Moi, je sais que je forme une vingtaine de footballeurs professionnels à ça, cette discussion. On invite même des musulmans qui viennent, alors qui, à la base, n'ont rien à voir avec l'islam qui était dans la chrétienté, qui n'ont rien à voir avec, même au niveau origine, avec le Maghreb, mais qui sont des fervents défenseurs de l'islam, parce qu'ils ont été vraiment endoctrinés, quelque part. Et la seule clé, c'est aussi d'avoir des arguments, mais ce que disait Guillaume, c'est l'amour. Mmh. C'est l'amour que Christ nous porte, et qu'on peut leur porter. Et c'est très important que dans les clubs, même s'ils sont majoritaires, que les joueurs chrétiens aillent se mélanger, aillent au restaurant avec ces gens-là pour être avec eux. Sinon, on va avoir le clivage. Après, l'autre balancier, avec toute la situation qui se passe en France, les musulmans se cachent quand même. Les footballeurs musulmans ont tendance maintenant à ne pas forcément l'exposer. Et aujourd'hui, on a un contre-balancier, c'est que sous l'ère Domenech, en équipe de France, on avait le tout halal. Tout le buffet de l'équipe de France de football était
c'est un halal. Gros scandale d'ailleurs, ça.
Vous le confirmez?
C'est une
question un peu naïve, parce que je ne connais absolument pas.
J'étais à Clairefontaine il y a 15 jours.
Et j'avais été sensibilisé.
Je les connais de l'intérieur.
Un journaliste assez médiatisé, à tort ou à tort, pas rigolo, mais oui, un racaille. Bon, j'avais été assez perturbé par le contenu.
Oui, oui. Alors moi, justement, sur cette enquête-là, j'ai été faire mes recherches et poser les questions. Fabien Barthez aurait dit. Ça, on doit le vérifier via Bakary Sania, il était là à l'époque. S'il peut confirmer, Fabien Barthez aurait dit: je ne sais plus si j'étais dans le vestiaire de l'équipe de France ou dans une mosquée. Ça en disait long par rapport à la question des tapis de prière. Je sais qu'il y a eu des problèmes entre Claude Makélélé et Samir Nasri. C'est pas pour rien si Samir Nasri s'est fait jeter. Il ne restait qu'une pièce de viande halal. Claude Makélélé, n'étant pas musulman, avait pris la viande parce qu'il était arrivé là, et Samir Nasri la voulait. Ce qui a créé un conflit. L'un a craché dans l'assiette de l'autre. Je ne dirais pas lequel. Vous voyez où ça a été. Et ça a été des enjeux. Et Didier Deschamps est revenu, il a remis un cadre, il a reposé les choses. Le tout halal, il l'a supprimé. C'est normal que les musulmans puissent avoir la nourriture qu'ils vont trouver, mais que ça ne soit pas imposé. Et ça, c'est une vraie réalité. Donc, ce que Daniel Riolo décrit dans son livre, peut-être qu'il en tire peut-être un peu, mais il y a une réalité qui est là. Et aujourd'hui, l'équipe de France, les médias, et pour contrebalancer, bon, on a plus une équipe qui a tendance chrétienne aujourd'hui.
Je valide. Je valide tout ça. C'est vrai.
On n'est pas là, on n'est pas là spécifiquement pour faire de l'ecclésiologie ou de la théologie, mais je me pose des questions sur ma religion. Donc, je suis très critique par rapport à la religion que j'aime, la religion catholique, mais si on prend le christianisme en général, ça peut être le même paquet. Est-ce que aussi, vous voyez comment les musulmans ils sont réactifs? Je me demande à la limite, et comprenez-moi bien, s'il n'y a pas quelque chose à imiter chez eux.
Ah oui, dans la ferveur. C'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte du bois, tout pour faire simple.
Ferme, et puis nous avons la notion
c'est ce que je veux. Pour ça qu'on est là.
Hein. Que font nos fidèles? Par exemple, n'importe quel musulman peut parler. À la limite agir au nom de l'islam, mais quand on est catholique, même quand on est prêtre, quand il y a un mot à dire sur la doctrine, il y a tellement de refaits dans ce
Moi, je vais vous dire, je vais aller à l'inverse de ce que vous dites. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait la tunique qui était argenteuil, la tunique, on pouvait l'adorer. Bon. J'y suis allé.
La vénérer, excusez-moi.
Et d'ailleurs, c'était la porte de l'année sainte, si je me souviens bien. Bon, je suis allé là-bas. Et je suis tombé avec un taxi musulman. Il était musulman. Voilà. Il dit, vous allez vénérer la tunique, très bien. Et il dit, nous les musulmans, on attend de vous, les catholiques, il n'y avait pas de fouteux, parce qu'ils ne savaient pas qui j'étais, on attend de vous que vous nous parliez de la Trinité, que vous nous parliez de Dieu. Hein? Contrairement à ce qu'on croit, on est là, on dit, on va pas... Non, ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur dise, voilà, vous, votre Dieu, vous dites ça, et nous, voilà ce qu'on dit. Mais ça, c'est ça qu'il a. Lui, c'était un ancien, c'était pas un jeune. On attend de vous, les catholiques, que vous nous parlez, les chrétiens, que vous nous parlez de Dieu, de la Trinité. Qu'est-ce que vous dites? Voilà. Dites-nous, vous, plusieurs fois, moi, ça m'arrive. Et j'ai compris ça. C'est qu'en fait, on n'ose pas parce que. Non, au contraire, je dis, moi, je suis chrétien, oui. Ben, alors, vous dites que l'ange Gabriel a tout révélé. Ben non, on dit pas ça. Nous, on dit qu'il a. C'est la Vierge Marie qui l'a fait ça. Et eux, ils respectent ça, en fait. Contrairement à ce qu'on pense.
Cadeau, j'ai dit, de ma paroisse à Paris, je ne sais pas si dans 10 ans, notre église va continuer à évoluer comme dans les catacombes, parce que nos temples, c'est un petit peu l'image des catacombes. On a peur du dehors, on a peur de ce qui vient dehors, et on a aussi une peur bleue de ce qui est humain. Je pense que là, il y a des choses à réaliser, parce que eux, peut-être qu'ils sont moins humains. Nous voulons porter l'amour, mais un amour tellement timide que l'on ne sent pas du tout la chaleur.
Je pense qu'il y a une phrase qui peut résumer les choses. On parle souvent dans l'Église de dialogue interreligieux. Mm-hmm. Et il y avait quelqu'un par provocation qui dit on n'est pas là pour dialoguer, on est là pour évangéliser. En disant que si le dialogue c'est pour dire ben, on discute pour dire qu'on discute, voilà. Mais on est là, si on est chrétien, on est là pour témoigner. Et quelqu'un disait, la meilleure chose qu'on peut faire à un musulman, c'est lui parler du Dieu de Jésus-Christ.
La Trinité, plusieurs fois, il s'est venu la Trinité du Christ. Qu'est-ce que c'est? Vous avez trois dieux? Comment ça se passe? Voilà.
Donc, j'ai dit cette anecdote, ça ne fera pas avancer grand-chose. Dans l'apparence que j'étais avant, il y avait deux équipes de foot qui étaient à un niveau. Alors, je m'y perds, moi, dans les promotions d'honneur, les trucs comme ça. Enfin, c'était un bon niveau amateur. Or, il se trouvait que le chef du canton, qui avait 3000 habitants, était dans la même division que la petite commune, qui avait 300 habitants. Et donc, cette année-là, ils étaient dans la même poule, tous. Et donc, je dis un jour aux gens qui étaient à la messe, et puis je fais dire autour à qui vous intéressait, j'ai dit, mais tel dimanche, vous allez jouer au foot l'après-midi, les joueurs. Ils étaient presque, bon, c'était encore la Vendée catholique, quoi. Ils avaient tous été baptisés, se mariés avec lui, tout. J'ai dit, mais si vous veniez à la messe ensemble. Alors, l'honneur a été sauf, je vous dirai comment. Mais alors, ça au moins fait discuter. Mais il y en a qui a dit il ne faut pas tout mélanger. Et ça dit beaucoup de choses, mais il ne faut pas tout mélanger. Bon, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça, ils ont parlé entre eux, avec les parents, tout ça. Alors l'honneur a été sauf, parce que Dieu merci, il y avait le grand-père de deux des joueurs qui avait cassé sa pipe, et il y a ce qu'on appelle la messe de huitaine, enfin la messe qui se disait 8 jours après. Or, la messe était ce dimanche-là, et donc on a eu deux joueurs qui étaient là, mais pour tout au monde reste.
Mais le bon Dieu s'avance toujours pour faire des coups comme ça.
Ça valait le coup, mais ça valait le coup justement de tenter. Ouais. Mais ça, j'ai pas été étonné, parce qu'on a déjà la peine à parler entre nous.
Sur cette question, sur un plan universitaire, c'était un petit ouvrage, il est décédé maintenant. Le christianisme en accusation de René Raymond, qui montre tout à fait la césure et que d'une religion qui, jusqu'au carrefour des années 50, avait même une notoriété intellectuelle, christianisme littérature, christianisme universitaire, c'est quelque chose qui a totalement disparu, qui est occulté. Le discours sur l'interreligieux est devenu plus dominant que la référence catholique au savoir et à la culture. Vatican II, là, il y a sans doute des experts, a été une césure importante, quand même,
qui a ouvert beaucoup au dialogue, à la culture du dialogue.
Et on en a perdu le monologue.
Mais je crois qu'il y a aussi des raisons.
Est-ce qu'il n'y a pas un dialogue à affûter? Parce que je pourrais affiner, parce que ces rencontres avec les musulmans sont toujours très provocantes, toujours très fortes. Pour peu qu'on ait un peu de foi dans son cœur, en tant que chrétien, ben c'est sûr que. Mais. C'est très court parce qu'il n'y a rien de nouveau. Enfin, le musulman, il a un amour de Dieu. Il faut reconnaître ça, un amour de la puissance. Et c'est quelque chose qui peut être à la fois pur et très beau, mais très souvent, avec la faiblesse de notre chair, c'est souvent perverti et c'est ambigu. Parce que est-ce que Dieu, c'est le pouvoir, c'est l'expérience d'Élie, un prophète qui va trouver Dieu dans le petit souffle, le murmure, alors que Dieu, enfin, on aurait pu penser qu'il parlait dans le tonnerre. Aujourd'hui, ce qui est assourdissant, c'est le tonnerre de ce Dieu qui descend jusque dans les vestiaires du Club de France. Bon, maintenant qu'on a fait un peu ménage, un ménage, pourquoi faire? Pour donner quelles ambiguïtés de frustration, on parle de la frustration tout à l'heure, et du coup, quel mauvais retour, quel autre contrebalancier va revenir? Donc, effectivement, moi, je suis très sensible. Comment les chrétiens savent, à tout niveau, que ce soit le pasteur, l'évêque, le prêtre, le laïc, dire bah, ma foi, c'est un Dieu qui aime. Et qui appelle à la convivialité, parce que où est le danger, finalement? Que des musulmans aiment Dieu et que des chrétiens aiment Dieu, c'est où le danger? Or, on parle tous comme s'il y avait une question plus ou moins difficile.
On est d'accord.
L'enjeu, il est, pour ça, sur une aumônerie. C'est-à-dire que moi, je suis pour que les musulmans aient leur salle de prière. Mais pas au détriment de tous, et pas devant tous, et que si le chrétien veut le faire, on va lui reprocher.
C'est effectivement ce qui se
passe, c'est-à-dire qu'il y a une pression sociale, et il y a une réalité, tout ce qu'il y a, moi, il y a 15 ans, j'avais fait des demandes de terrain dans une ville de l'Ouest, on avait fait un match. On avait parlé de Jésus après le match. Il y a un journaliste qui a fait, parce qu'on était la première équipe valide à jouer contre une équipe de sourds. On a témoigné de l'évangile en faisant un sketch, en leur présentant, en leur communiquant l'amour qu'on avait. On a fait tout un truc, on a fait un repas avec eux. Un article a été fait dans la presse, la mairie nous a dit que vous ne faites plus jamais ça. On a eu un rendez-vous, on s'est expliqué, dit Sport et Foi. Ils ont dit changez le nom. On ne veut pas que vous rendiez public ce que vous faites. Continuez à le faire si vous voulez, mais ne le faites pas. Parce que si on accepte pour vous, on va devoir accepter pour les musulmans.
Ça, on l'entend partout.
On l'entend partout.
Tout ça. Et ça, c'est pourquoi? Et à l'époque, déjà, c'était parce qu'on ne sait pas si on n'aura pas une bombe. Voilà, c'est les raccourcis.
Comme ça, c'est vite fait, au moins l'argument est implacable. Alors, à partir de là, il n'y a plus de discussion.
Et vous êtes, enfin, c'est la Joe Mère qui vous dit ça. Qu'est-ce que
vous voulez faire?
Par contre, juste pour compléter, parce que je n'ai, ce sont des réponses. Mais pour être peut-être clivant, mais Jésus était clivant, puisqu'il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis un chemin, une vérité, une vie.
Et c'est ça tout l'enjeu, pour vraiment étudier l'islam et voir ce qui se passe de certains qui passent d'une culture chrétienne à l'islam, c'est qu'ils ne sont pas enracinés dans le dogme, dans ce que c'est que le christianisme, dans ce que c'est que Jésus mort sur la croix en tant que fils de Dieu. Et qu'il faut savoir que dans le Coran, Jésus est beaucoup plus présent que Mahomet.
Oui.
Dans 27 fois, et Jésus revient à la fin des temps juger le monde. Donc la figure de Jésus est très importante dans le Coran. On lui reconnaît beaucoup de choses.
Mais il n'est pas porteur du même sens du nom. Il n'a pas le nom qui est le nom de l'évangile. Hein. Ce n'est pas le même Jésus.
On oui,
est bien d'accord.
Mais
ce n'est pas le même sens. C'est essentiel.
Tout à fait.
Parce que dans le dialogue avec les musulmans, ils te disent que Jésus est dans le Coran. Donc, du coup, il a été inclus, etc. Oui, mais il faudrait leur dire oui, mais enfin, ce qui est pris là, ce n'est pas la même réalité. C'est comme tu dis, moi, je mange du caramba et toi, tu as un bonbon.
Mais ce qui se passe, c'est que si on n'est pas armé, Dans ce que c'est, ouais, qu'est-ce c'est que ça veut dire que Jésus, fils de Dieu, quel enjeu doctrinaux derrière. Les jeunes disent, ah mais Jésus est dans le Coran. Beaucoup de gens disent, l'islam est la continuité du christianisme. Ce n'est pas la continuité, c'est une ouverture totale.
Juste une chose, ça souligne quand même l'enjeu, notre rencontre est intéressant, parce que tout l'enjeu c'est de dire, est-ce que, comment nous, notre regard sur le sport, qui est quand même un fait culturel de masse, devenu le fait culturel de masse des sociétés, donc éducateur des jeunes communautés. La question de l'islam, la place de l'islam, c'est de dire justement comment finalement nous pouvons réfléchir cette question de l'accompagnement et de compréhension que maintenant dans les communautés, le foot en particulier, dans ces communautés-là, enfin dans la communauté éducative, par le foot qui touche des communautés simples et parfois même chrétiennes, de souche chrétienne, il y a une faiblesse de notre formation, de l'éducation chrétienne, qui fait que finalement il y a ce qu'on appelle une régression catégoriale. On est passé de la dimension théologale à la dimension catégoriale. Du coup, on n'est pas en train de perdre les jeunes chrétiens, on est en train de voir une société se réajuster à son véritable niveau de progression dans la foi, c'est-à-dire un niveau catégorial. C'est-à-dire que c'est la foi de la loi, c'est la foi du service. Ces jeunes qui ne sont pas cadrés, quand ils trouvent un cadre, ils se disent « Ok, et c'est, ça se fait en 300 étages, allez, ouais, avec... »
Mais ça va vite.
Et ça va vite.
Même pas un quart d'heure, 10 minutes.
Du coup, à nous de dire comment, effectivement, je trouve que les solutions simples de la convivialité, de tous ces critères qui sont ceux de l'amitié, de l'amour, de respect, du cadre,
le cadre
qu'on a donné,
tout à fait.
Effectivement, sont des vrais lieux d'évangélisation. Et non pas comme une possession
dernière,
non.
Mais véritablement comme une introduction à la rencontre d'un Dieu qui nous aime et nous fait vivre ensemble.
Tout à fait.
Mais est-ce qu'on peut pas dire que, bon, le dialogue peut-être, moi je dis qu'il y a un match aussi, il y a un match entre les religions dans la société française. Un match, c'est pas pour détruire, un match, ça veut dire on se confronte pour que on avance ensemble. Alors, on confronte, ben, oui, mais il faut en parler.
Oui.
Eux, ils parlent de leur Dieu, l'essentiel, c'est que Dieu soit
plus que lui. Je pense qu'il faut deux choses, je veux dire, l'idée c'est qu'on retrouve de très bons lieux de formation pour nos jeunes qui soient bien formés, savoir de quel est leur Dieu, quel est notre Dieu, voilà. Quand on parle de la Trinité, on parle du catéchisme, on parle de Jésus-Christ, voilà. Bon. Et puis derrière ça, c'est l'amour de Dieu. Et puis il faut aller quoi, il faut y aller, il faut montrer, il faut être engagé, il faut y aller quoi. Voilà, ça c'est le
voilà. De Gilles, alors dans les échanges, il y a quelque chose qui me ressource. Et en même temps, je me suis entendu parler il y a quelques heures, et je vous redonne un peu la phrase, mais je parle avant tout pour moi, et si ça résonne pour vous. C'était la phrase, si tu veux trouver la source, tu dois aller à contre-courant.
Ah oui.
Et de ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, si on n'ose pas aller à contre-courant, il y a peut-être des choses qu'on va faire. Donc, paradoxalement, ça me ressource d'entendre.
Tout à fait. Je partage complètement cet avis pour terminer avant de. Enfin, je sais pas. Notre Seigneur a dit la vérité à contre-courant. Il savait qu'il avait des vents contraires partout où il allait, mais il a dit ce qu'il était. Donc il n'a pas craint d'annoncer les choses avec amour. Il a repris ses apôtres, il les a. Voilà, et il a continué dans l'amour, il a dit la vérité, il a avancé avec force, avec détermination, mais en même temps avec paix, calme, et il a dit la vérité, quoi. Voilà. Voilà.
Merci bien.
Merci à vous.
Bien discuté. Hein.
Il a encore beaucoup de travail, donc il sera obligé de nous quitter. Je suis obligé de l'occasion ouais. de se revoir ou de recontacter. Mais je trouve que c'est intéressant notre discussion, et notamment la fin de notre discussion, qui va être une très bonne introduction au film qu'on va voir tout à l'heure, ah oui. Où on a vraiment cette, comment le témoignage de la foi va être l'occasion, à l'époque de la ségrégation aux États-Unis, comment ça va, dans un collège, permettre de faire l'unité voilà, par le témoignage de la foi au niveau du sport. Voilà. Merci Guillaume.
Bah, de rien.
Fait, moi, je me pas
une non, je dois rentrer, je dois partir. Oh, bah, tu
repars par où là, chez toi là-haut.
Tu es un beau dessus, côté de la salle de gestion.